La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, nous poursuivons l'exploration de l'œuvre de Roberto Bolaño, considéré 16 ans après sa mort comme l'un des plus grands écrivains latino-américains de sa génération. Bolaño, mort à 50 ans en 2003, a laissé derrière lui une œuvre des plus imposantes. Une œuvre rédigée durant des années de plus ou moins grande errance entre le Mexique, le Chili, l'Italie et la France avant de se fixer à Barcelone. Un temps trotskiste, brièvement arrêté par le régime de Pinochet, il n'était pourtant pas un révolutionnaire, ni même particulièrement engagé, sauf peut-être dans sa littérature. De sa biographie, nous avons parlé lundi dernier, c'était avec Robert Amutio. Hier, c'est sur le cauchemar chilien qui fait suite à l'arrivée au pouvoir de Pinochet en 1973 que nous nous sommes penchés. Pinochet qui a assassiné et poussé à l'exil des milliers de Chiliens, sans oublier les tortures organisées parfois au sous-sol de maisons, au-dessus desquelles avaient lieu des fêtes et des lectures, comme l'a raconté Bolaño dans son livre Nocturne du Chili. Nous en parlions hier avec Bernardo Toro. Demain, nous recevrons deux écrivains qui sont partis, chacun à leur manière, à la recherche de Bolaño. Alban Lefranc, qui a adapté 2666 au théâtre, et Edwige Jeanmarre, qui a écrit un roman dans lequel il y est presque un personnage. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, une plongée dans l'œuvre monde, l'œuvre monstre de Roberto Bolaño, dont on va rapidement comprendre qu'il était avant tout un poète. C'est en tous les cas ce qu'en pense mon invité d'aujourd'hui, Florence Olivier, enseignante à Paris 3 et dans le livre « Sous le roman, la poésie, le défi de Roberto Bolaño » vient de paraître, c'est aux éditions Hermann.
Il n'a pas été Hemingway, pas du tout. Il n'a pas été Burroughs, avec la drogue. Il ne buvait pas d'alcool, il ne prenait pas de drogue, rien du tout. Il était très discipliné, je peux vous le dire. Comme un petit officiniste, qu'est-ce que c'est exactement ça? Il travaillait beaucoup et tout le temps en Espagne. Et bon, c'est ça, il n'y avait pas de vie romantique, pas du tout. Il était tout le temps là, enfermé, comme un vrai écrivain. Mais pour moi, c'était un type très modéré, au contraire de cette mythe de révolutionnaire, pas du tout. Pas du tout, absolument. Il voulait une démocratie très tranquille, très européenne, tout ça, précisément parce que peut-être il a vu les conséquences de vouloir faire la révolution, je ne sais pas. Et il avait une relation très distante avec les écrivains espagnols, les écrivains. Il voulait la guerre littéraire, c'est vrai ça. C'est vrai ça. Il s'est moqué des écrivains. Il avait un sens guerrier. Come on everybody!
Bonjour Florence Olivier.
Bonjour Mathieu.
Alors vous avez reconnu l'écrivain espagnol Javier Cercas qui parle du petit officiniste.
Oui en effet, mais bon c'est une image d'écrivain parlant d'un autre écrivain. Et d'ailleurs il y a eu une certaine brouille à la fin de la vie de Roberto Bolaño entre Javier Cercas et Roberto Bolaño. Ils se sont réconciliés in extremis, mais pas tout à fait.
Donc c'était la guerre des écrivains, comme le dit Cercas. Tu ne pensais pas que cette guerre allait s'appliquer aussi à lui ?
Non, je ne pense pas que c'était la guerre des écrivains. Ce sont des susceptibilités à la fois d'écrivains et d'amis.
En tous les cas, Cercas fait le portrait d'un Bolaño très discipliné, assidu à sa table de travail, pas du tout un révolutionnaire. Ni un fêtard, ni un homme à femme, rien de tout ça. Le contraire de sa littérature, en fait.
Oui, alors, je ne sais pas si on peut faire ce portrait-là, ou alors ça serait un portrait de Kafka, peut-être, qui est un des modèles, hein, aussi, de Roberto Bolaño. Du moins, un modèle du point de vue de la de l'héroïsme face à la maladie et à l'écriture et du fait d'être contraint à l'écriture. Peut-être que pour Kafka c'était beaucoup plus douloureux, sans doute, mais Bolaño l'évoque dans un texte qui s'appelle « Littérature plus maladie égale maladie », et il évoque ce moment où Kafka sait qu'il n'a plus rien d'autre à faire que d'écrire. Et Bolaño, de toute façon, très jeune déjà, n'avait rien d'autre à faire d'important dans la vie que d'écrire.
En tout cas, de la rigueur, il en a fallu tout de même pour écrire des romans aussi importants que 2666 ou Les Détectives Sauvages. Ce sont des romans rigoureux. En tout cas,
ce sont des romans rigoureux qui ont une composition effectivement très inventive, complexe. Un désir de profusion, d'exubérance et un désir expérimental en réalité, hein, qui se joint aussi à une lisibilité très grande, ce qui n'était pas le cas des premiers récits de Bolaño.
Alors justement, premier récit, dernier gros livre, est-ce qu'entre les formes et les tailles justement qu'a utilisé Roberto Bolaño, petit livre, très gros livre, on peut trouver là quelque chose d'explicatif de son projet? Pourquoi finalement choisissait-il d'écrire soit des nouvelles, soit des très gros livres?
Alors oui, il y aurait beaucoup à dire, trop peut-être pour ce moment, mais en effet, je pense que l'écriture narrative de Bolaño, elle commence dès ses débuts, en réalité dès la poésie. La poésie est narrative dans les années de jeunesse, c'est-à-dire avant même qu'il essaye qu'il projette d'écrire un roman à quatre mains. Ce qui ne se passe pas dans les années 90, après la naissance de son fils, comme je l'ai entendu ces derniers jours, mais
vous voulez dire sur cette
en antenne. 1984, voilà. Et donc la publication de ce roman à quatre mains avec Antonio García Porta se fait en 1984. Mais on voit que Bolaño était un narrateur, un poète narrateur, dès le début de son écriture. Il y avait des poèmes en vers, des poèmes en prose, et également des formes narratives à l'intérieur des poèmes, des fictions dans les poèmes, des mises en scène fictionnelles de soi dans les poèmes. Donc dans les poèmes du début des années 80, par exemple. Peut-être un peu moins dans les poèmes des années 70, écrits au Mexique. Mais je reviens aux formes longues et brèves. J'ai écrit qu'il s'agissait en fait de prendre l'œuvre de Bolaño dans sa totalité, comme une œuvre dynamique, une œuvre qui suscite une lecture mobile et quelque chose qui est à prendre comme une immense composition rythmique. Et dans les compositions rythmiques, on fait alterner du bref et du long. Et donc, et par ailleurs, à l'intérieur des œuvres immenses, comme 2666 ou peut-être encore plus évidemment, à première lecture, dans Les Détectives Sauvages, il y a une construction à partir de fragments, de monologues, d'une infinité de voix qui s'expriment par bribes de récits. Hein. Et tout cela donc s'organise en puzzle, et le lecteur doit suivre et composer aussi avec l'auteur, hein, à l'intérieur des grandes formes.
Ça veut dire que pour vous, il y avait au départ, bon, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais enfin, une vision quand même de l'œuvre dans son entier et qui fait que tous les livres lus les uns après les autres, dans l'ordre ou dans le désordre, forment un tout.
Oui, forment un tout. Je ne sais pas, je pense que ça n'est pas comme cela que ça se passe, ça n'est pas une vision d'emblée de l'écrivain de 20 ans. C'est une construction progressive avec des renvois entre les œuvres. Et puis on a beaucoup parlé aussi de alors c'est le critique Ignacio Echevarría, espagnol de Barcelone, hein, qui en a parlé le premier, je crois, de la fractalité de l'œuvre de Roberto Bolaño. Donc cette fractalité, cela signifie qu'il y a des œuvres brèves qui sont extraites de fragments, qui sont construit en expansion à partir de fragments des œuvres longues. Donc il y en a au moins deux cas très patents, hein, très évidents. Un fragment, un monologue de Détective Sauvage qui est devenu le roman Amuleto. Hein, il a subi une expansion ou un agrandissement, on pourrait dire, si on le pense d'un point de vue photographique. Et de la même manière, le dernier chapitre ou récit de la littérature nazie en Amérique a grandi, hein, grandi cellulairement presque, est devenu étoile distante.
Et pourquoi fait-il ça? C'est dans l'idée de créer un univers qui soit cohérent? C'est le retour des personnages, c'est le retour des thèmes.
Il y a un retour des personnages, il y a un retour des thèmes, il y a une manière de déplacer aussi des personnages, c'est-à-dire de la fiction, de l'œuvre poétique à l'œuvre, disons, narrative en nouvelle et en roman. Bref, Houlon.
Alors, on va creuser un petit peu tout ça, mais d'abord, quand même, je voudrais dire, Florence Olivier, en général, on ne dévoile pas la date de naissance de nos invités, mais là, je vais être obligée de le faire, c'est la même que l'année de Roberto Bolaño. Les auditeurs qui souhaitent en savoir plus peuvent se référer aux émissions précédentes. Et comme lui, vous avez vécu quelques années à Mexico.
Oui, j'y suis arrivée à Mexico en 1974. J'y suis restée d'abord une année entre 1974 et 1975. Et donc à l'époque, j'ai bien connu les milieux étudiants et un peu littéraires qui tournaient autour de peut-être pas les ateliers littéraires de l'Université nationale autonome de Mexico, mais l'ambiance de l'Université nationale autonome de Mexico. Et bon, et après, j'ai vécu à plusieurs reprises au Mexique assez longuement.
Et vous avez croisé à ce moment-là quelques membres du fameux groupe infraréaliste auquel appartenait le jeune Bolaño.
Oui, mais je les ai croisés après le départ de Roberto Bolaño du Mexique. Donc je ne crois pas les avoir connus, je les ai peut-être croisés en 74, 75. De toute façon, le mouvement se fonde dans ces années-là, en 1975. Dans Les Détectives Sauvages, on voit l'équivalent fictionnel donc de ce mouvement infraréaliste, les réalistes viscéraux, dans l'année 75 et après l'année 76. Enfin bon, le passage entre 1975 et 1976, du moins dans la première partie et la dernière partie. Et puis l'évolution de ce groupe dispersé dans la partie centrale du roman. Donc moi j'ai connu des infraréalistes, en effet, il y en a d'ailleurs un qui vit tout près de Paris.
Il y a encore infraréaliste aujourd'hui? Ou c'était un
peut-être, je crois que les infraréalistes, je les ai revus, se sont manifestés après la publication du roman de Roberto Bolaño. Donc il y a eu des publications d'anthologie à Mexico, il y a eu des journées, des soirées infraréalistes récemment, il y a 2 ans. Des soirées infraréalistes, oui. Où on lisait des poèmes infraréalistes, on écoutait du rock, et cela se passait dans des lieux un peu institutionnels d'une part et underground de l'autre, ou qui se le voulaient underground. Ils ne l'étaient pas forcément tellement.
Et alors parmi les infraréalistes, il y avait peut-être des Colombiens. C'est un ami colombien qui vous a fait découvrir Bolaño quand il vous a parlé d'étoiles distantes et il vous a dit « il faut le lire, c'est un mage ».
Alors non, ce n'est... Pardon, excusez-moi de vous contredire, mais l'ami colombien est un écrivain qui vient d'obtenir d'ailleurs 2 prix littéraires très importants. Le prix Romulo Gallegos qu'avait obtenu Bolaño. Il s'appelle Pablo Montoya. Mais ce n'est pas lui qui m'a fait découvrir Roberto Bolaño. C'est un critique littéraire mexicain, un peu plus âgé, qui s'appelle Evodio Escalante et qui avait connu toute l'époque du groupe infraréaliste actif à Mexico.
Oui, mais c'est lui qui vous a dit que c'était un mage.
Ah oui.
Recuerdo esa idea de Marcel Duchamp.
Il me rappelle cette idée de Marcel Duchamp comme selon laquelle l'artiste est un médium.
De manera que seguimos recibiendo los envíos desde el más allá.
De l'au-delà, on reçoit toujours des nouvelles de Roberto Bolaño et de ses livres qui continuent à se publier parce qu'il y a beaucoup de publications posthumes de Roberto.
Su talento le ha permitido rebasar esta línea.
En mourant, il a traversé une frontière, c'est-à-dire qu'il est devenu un classique incontournable.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons avec Florence Olivier de Roberto Bolaño. Florence Olivier, est-ce que vous diriez, comme le journaliste et écrivain mexicain qu'on vient d'entendre, Sergio González Rodríguez, que Bolaño est devenu un classique en mourant ?
Quand devient-on un classique ?
En mourant.
Selon González Rodríguez. Mais bon, peut-être que Bolaño était déjà un classique avant. D'ailleurs, sur la notion de classique, et justement de classique dans l'expérimentation de l'avant-garde, les stridentistes, les poètes stridentistes, avec lesquels dialoguent les poètes du roman Les Détectives Sauvages, se sont proclamés classiques en 1925, disons, peut-être un peu plus tard, alors que leur mouvement avait débuté par un manifeste en 1921. Et donc les stridentistes ont déclaré « Désormais, le stridentisme est un mouvement classique ». Donc Bolaño est devenu classique, je crois, peut-être qu'il l'était déjà avant, mais qu'est-ce qu'un classique ?
En tout cas, il l'avait peut-être lui-même décrété, ou on l'avait décrété pour lui. Alors, vous venez de publier un livre, je le disais, sous le roman La Poésie, le défi de Roberto Bolaño, et vous y parlez, vous avez d'ailleurs commencé de l'évoquer, un essai qui s'appelle Littérature plus maladie égale maladie, qu'on trouve dans le volume Le Gaucho insupportable. Et dans ce livre, il dit que écrire sur la maladie peut être un acte de libération. Et vous écrivez, vous soulignez que pour Roberto Bolaño, la littérature, c'était à la vie, à la mort.
Oui, il y a une relation passionnelle, une relation héroïque, ou du moins une sorte de auto-mise en scène héroïque de l'acte d'écrire, bien sûr.
Et vous ajoutez, Et vous ajoutez que c'est le choix d'un poète. Et là, le mot de poète est enfin prononcé, car votre thèse est que tout chez Bolaño, ou presque, est poésie. C'est ça, Florence Olivier ?
Oui, c'est cela. Mais bon, il faut inscrire cela dans un contexte un peu plus vaste. Et écoutez, Bolaño, je pense que lorsqu'il déclare que la meilleure poésie du XXe siècle a été explorée par des narrateurs tels que Faulkner, Proust ou Joyce, et que ce sont ceux-là qui ont poussé l'exploration des voies inconnues de l'écriture, dans les voies inconnues de l'écriture, eh bien, j'adhère. Non pas totalement, mais j'adhère en partie à cette déclaration un peu programmatique toujours de Roberto Bolaño, et je le place parmi ses écrivains. D'ailleurs, Faulkner était poète au départ, hein, un poète qui renonce à la poésie telle qu'elle est définie pour faire de la poésie romanesque. Et je pense que Bolaño n'a pas cessé d'écrire des poèmes, mais effectivement, toute son œuvre narrative est animée d'un esprit poétique.
Donc il a transmué sa poésie dans ses romans,
oui,
et dans ses nouvelles. Et vous soutenez que le jeune poète infraréaliste qu'était Roberto Bolaño a fait un saut périlleux pour parvenir au roman, depuis la poésie. Un saut périlleux.
Oui, non, là je me moquais, c'est la première phrase de mon premier texte, je me moquais de cette légende qui voudrait que tout d'un coup, de façon extraordinaire, le poète ait cessé d'écrire de la poésie, ait fait un saut périlleux et soit parvenu à l'écriture de récits en prose.
Donc vous êtes...
C'est faux, je dément. Bien sûr, le jeune poète écrivait déjà de la poésie narrative et des fragments narratifs et un journal de vie qui était à la fois poème en prose et récit réellement.
Et pourquoi ça, quand même, à un moment donné, il passe tout de même d'une poésie plus visible à une poésie à travers la prose ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Il écrit dès le début de la poésie en vers et de la poésie en prose, de la poésie narrative en vers et de la poésie narrative en prose. Et puis, peut-être qu'il se lance effectivement dans quelque chose qu'il veut plus étendu du point de vue du récit. Il a un talent narratif extraordinaire. Et donc ce talent narratif, il le déploie enfin et il s'intéresse enfin à l'intelligibilité dramatique de ces récits, hein, et pas seulement à l'expérimentation dans le récit.
Et le voilà qui reconstruit, ou plutôt qui invente une littérature qui reconstruit le monde, comme nous le dit Sergio Gomez González.
C'est pas du tout une littérature qui dénonce, c'est une littérature qui reconstruit le monde. C'est ce qui rend sa littérature si importante, c'est-à-dire qu'il a réussi à concilier des aspects qui s'opposaient a priori. Là où d'autres auraient trouvé matière à faire une simple dénonciation, Roberto a su inventer un récit avec une richesse verbale très forte. Ça, c'est un défi qui est lancé au lecteur, évidemment, mais c'est un défi complice.
Comment vous comprenez cette expression « reconstruire la littérature qui reconstruit le monde » Florence Olivier?
La littérature qui reconstruit le monde, c'est la littérature comme miroir magique du monde. Ça n'est pas la littérature comme représentation fidèle du monde. Mais en effet, c'est la littérature qui explore le monde. Mais le monde, c'est aussi le monde de la littérature. C'est le monde des livres. Hein, c'est le monde, c'est la cité des livres. C'est au-delà de la bibliothèque. Hein. C'est-à-dire, c'est toute la littérature, qu'elle soit orale, écrite, qu'elle soit archaïque, qu'elle soit tout à fait contemporaine, qu'elle soit, qu'elle se déploie dans toutes sortes de formes, c'est cette littérature dans laquelle s'inscrit le projet de roman monde, effectivement, on peut le dire, pour 2666, mais 2666, c'est le roman monde, du monde global, hein, par excellence.
Alors, quand on pense à la poésie chilienne, on pense à Pablo Neruda. Et Roberto Bolaño, forcément, a été influencé par le grand poète chilien. Sans doute s'est-il inscrit en contre. S'est-il positionné par rapport à Neruda?
Bon, évidemment, avoir un poète national, prix Nobel comme Neruda, et en plus de gauche stalinienne aux yeux de Roberto Bolaño, c'est avoir une sorte de grand-père écrasant. Donc, lorsqu'il était adolescent, il le met en scène de façon très ironique, très auto-ironique dans un de ses récits. Il se revendiquait de Neruda, mais il était très très jeune. Et puis après, il a été évidemment, il a fait de Neruda une sorte d'épouvantail qu'il martyrise un peu.
Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il lui reprochait tant?
Je pense que ce sont des traits de fausseté, et pourtant, de fausseté dans l'épique, dans l'épopée.
Il n'aimait pas le lyrisme, il n'aimait pas l'épopée.
Sur le lyrisme. Alors sur le lyrisme, le premier Neruda, oui, il se moque un peu indirectement en citant Nicanor Parra, qui est son véritable modèle comme poète chilien, en citant Nicanor Parra, qui semble faire allusion au premier poème de Neruda, des poèmes que tout le monde connaît par cœur, ou presque, en Amérique latine. Hein. Los poemas de amor y una canción desesperada.
Je vous propose d'écouter à présent, Florence Olivier, un extrait du roman Les Détectives Sauvages, où il est question d'une poétesse mythique. Alors je ne sais pas comment on prononce. Cesarea.
Cesarea Tinajero.
Ah, Tinajero.
Voilà, j'ai dit. Ma vie. Et soit dit en passant, la seule chose qui reste de la vie de Cesarea Tinajero. Alors au lieu de se jeter voracement sur le classeur pour farfouiller parmi les documents, c'est ça qui est bizarre, messieurs, ils sont restés impassibles et m'ont demandé si j'écrivais des lettres d'amour. De tout, les gars, je leur ai dit en laissant le classeur par terre et en remplissant de nouveau mon verre de mezcal Los Suicidas. Des lettres de mère à leurs enfants, des lettres d'enfants à leurs parents, des lettres de femmes à leurs maris en prison, et des lettres de fiancés, qui sont les meilleures, bien sûr, à cause de leur naïveté, je trouve, ou à cause de leur ardeur. Tout est mélangé, comme chez un apothicaire, et parfois le greffier ajoute quelque chose de son cru. Ah, quel beau métier c'est donc, ils ont dit. Après 30 années sous les arcades de Santo Domingo, ça n'est plus tant que ça, je leur ai dit. Tout en ouvrant le classeur et en commençant à fureter parmi des documents, à la recherche de l'unique exemplaire que j'avais de Caborca, la revue qu'avait dirigée avec tant de discrétion et tant d'espoir, Cesarea.
Les détectives sauvages ou la vie poétique, dites-vous, Florence Olivier. Là aussi, il y a de la poésie ?
Oui, elle n'est pas... Enfin, elle est présente sans doute dans la conception même du roman, dans l'écriture, mais c'est surtout un roman qui raconte les aventures de jeunes poètes subversifs de ce mouvement donc viscéral réaliste dans la fiction, inspiré du véritable mouvement infraréaliste des années 70 à Mexico, oui.
Donc on entre dans ce roman Le jour des morts, l'année 1975, jour des morts, journée importante au Mexique. Et là, un jeune homme tient son journal d'apprenti poète à Mexico.
Oui, toute la première partie, c'est le journal, c'est divisé en trois grandes parties. La première partie, c'est le journal du jeune poète García Madero, donc qui est initié très, très rapidement au mouvement infraréaliste, qui est intégré comme membre dans ce mouvement. Et donc, c'est une sorte de journal de formation érotique et littéraire, très drôle, de ce jeune poète García Madero, qui a 17 ans. Et donc, évidemment, on ne peut penser qu'à Rimbaud. De la même manière qu'on ne peut penser qu'à Rimbaud, qui était un des modèles, une des icônes, enfin, de Roberto Bolaño et des poètes du mouvement, mais de Roberto Bolaño, l'image du tout jeune poète génial, qui se trouve donc à la fois incarné par García Madero et par dans le prénom de Arturo Bellano, le personnage qui évoque Roberto Bolaño lui-même.
Alors voilà, parce que donc ce jeune homme croise la trajectoire de deux autres personnages, donc Arturo Bellano, effectivement Bolaño, quoi, en gros, et Ulysses Lima, qui sont donc des poètes se disant réal viscéralistes. Et le 1er janvier 1976, avec deux chefs de file du réal viscéralisme, eh bien, ce jeune poète part à la recherche d'une femme, cette fameuse Cesarea Tinajero.
Oui, donc ils partent.
Dans le désert.
Fuyant, ils traversent tout le Mexique jusque dans les déserts du Sonora, à la frontière entre le Sonora et l'Arizona, et donc dans un territoire qui est un territoire évidemment désertique, donc symboliquement aussi le nord de la littérature, le territoire de la littérature, la terra incognita de la littérature.
Et alors, cette poétesse, Cesarea Tinajero, a disparu, mais on ne va jamais la retrouver. Quel est, au fond, l'objet de cette quête ?
Mais il la retrouve. Il la retrouve, et c'est une sorte de... Je l'ai comparée à une dulcinée du Toboso, parce qu'elle est parée de toutes sortes d'attributs a priori décevants, mais en fait c'est une guérisseuse, c'est une institutrice, c'est une femme marginale qui est surtout une femme extrêmement courageuse. Et elle a des cahiers.
Elle a des cahiers ?
Chez elle.
Alors, ce roman, c'est aussi, Florence Olivier, un dialogue par-delà les générations entre les poètes avant-gardistes des années 20, donc cette fameuse Cesarea, et ceux des années 70 au Mexique. Donc c'est un pont entre les générations. Il y a ça aussi, ce thème-là existe.
Je pense que c'est un pont entre les générations d'avant-garde. Donc ce sont différentes avant-gardes, les avant-gardes des années 20, les avant-gardes des années 70 au Mexique, dans la fiction viscérale réaliste ou réaliste viscéraux, et bien sûr les avant-gardes françaises, enfin les post-surréalistes de mêmes années, de 1970, c'est-à-dire les poètes qui sont surnommés poètes électriques dans le roman de Bolaño, Bulto, Michel Bulto, Mathieu Messager, Jean-Jacques Fosseau, il se réclame aussi de Bigat. Et ce sont des poètes que lisait réellement Roberto Bolaño à l'époque et ses camarades infraréalistes à Mexico.
Et alors cette quête, elle équivaut pour les jeunes gens des années 70 à relever le défi d'une certaine façon du fameux « Partez sur les routes » d'André Breton dans son article « Lâchez tout ».
Dans son article « Lâchez tout », mais cette « Partez sur les routes » de « Lâchez tout » est repris par Roberto Bolaño dans son manifeste infraréaliste du début 1976. Voilà.
Car c'est l'équivalence entre art et vie, poésie et voyage, poésie et révolution qui est ici montrée.
Oui, c'est l'équivalence entre... c'est pour cela que je parle de vie poétique. Qu'est-ce que faire de la poésie dans ce roman, en tout cas, ou pour ces jeunes gens? C'est vivre poétiquement. C'est l'art de vivre poétiquement.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et comme chaque jour, nous faisons une pause dans cette émission pour retrouver en compagnie des revues avec aujourd'hui la visite dans ce studio de Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel.
Bonjour Mathieu.
La NRF numéro 620. 620 numéro, vous vous rendez compte Michel?
Infraréaliste.
De quoi vous êtes l'héritier? Incroyable, non?
Je me sens terriblement infraréaliste.
C'est vrai? Mais ça se voit un petit peu. Alors numéro 620, vous avez choisi de laisser une grande place dans ce numéro à l'écrivain polonais, enfin pas lui directement, mais Witold Gombrowicz.
Oui, pour deux raisons que je vais rapidement dire. La première, c'est que on publie pour la première fois chez Stock des carnets inédits sous le titre de Chronos et qui sont évidemment importants et intéressants parce qu'ils traitent, ils parlent de la vie privée sexuelle de Gombrowicz quand il était à Buenos Aires. Donc, sexualité mobile.
Vous hochez de la tête, Florence Olivier, vous avez des choses à nous dire sur ce sujet?
Oui, j'ai lu ces chroniques en espagnol.
Oui, c'était écrit en espagnol par Gombrowicz lui-même.
Je ne sais pas si c'était écrit en espagnol, mais en tout cas, je les ai lus, effectivement.
Vous n'en direz pas plus.
Et l'autre raison, c'est la traduction de 8 lettres inédites de Gombrowicz à un ami argentin, alors qu'il est rentré en France en 62 ou 63, et qu'il fait part à cet ami de ses premières impressions de la France de ce moment-là. Il en fait un portrait très très acide, très 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 ironique, très drôle. Et ces lettres sont écrites en espagnol, contrairement à Chronos, je me suis trompé il y a un instant, ce sont ces lettres qui sont traduites de l'espagnol, donc écrites en espagnol par Gombrowicz. Et alors on a accompagné la traduction de ces lettres d'un texte, d'un portrait par l'écrivain Villamata et Ricardo Piglia qui a également...
Donc deux portraits après les lettres.
Voilà, ouais. Tout à fait. Et un commentaire de lecture, une lecture par Frédéric Verger de Chronos et des lettres aussi.
Donc c'est
proliféré un peu.
C'est des lettres de fin de vie alors pour Gombrowicz.
C'est le fin de vie. Il meurt en 64 dans le sud de la France, à Grasse. Et donc on est effectivement dans une sorte de dernier acte, mais on ne peut pas imaginer Gombrowicz dépérissant. Il est mort, c'est un fait, mais jusqu'au bout, il reste Gombrowicz. Donc c'est quelque chose de très très saisissant aussi à la lecture de ces textes.
Alors quand on a
la vitalité.
Lu ces différentes sections consacrées à Witold Gombrowicz, on revient à la première page et on tombe sur le rapport des faits d'Annie Ernaux.
Oui, alors Annie Ernaux a a bien voulu donner à la NRF le contenu d'un carnet de notes de travail qu'elle a tenu pendant qu'elle écrivait « Mémoire de fille », qui est paru au printemps dernier, et qui est un texte aussi, la trajectoire. Moi, je suis de ceux, je sais qu'il y a débat là-dessus, je suis de ceux qui considèrent qu'Agnerno est un grand écrivain, depuis son premier livre « La place » jusqu'à aujourd'hui, et que son écriture, qui est une écriture de la sexualité, ou plus exactement du sexe féminin, a quelque chose d'extraordinairement transgressif, même à l'égard du féminisme dans lequel on veut l'enfermer, on veut en faire une féministe, mais non, enfin elle est beaucoup plus intéressante que ça, ne serait-ce que parce qu'elle justement elle a cette capacité de dire la vérité du désir, y compris et surtout quand ce désir se manifeste de la façon la plus paradoxale, et c'est ce qu'elle raconte précisément dans Mémoire de fille.
Décidément, Michel Crépu, quel succès auprès de Florence Olivier, qui hoche de nouveau la tête sur ce que vous venez de dire, Florence Olivier.
Oui, parce que j'ai beaucoup aimé à la fois Passion simple et il y a le journal et la fiction. Non, et la fiction, il y a un texte qui est vraiment fictionnalisé.
Enfin, vous aimez
le roman. Non, mais c'est une histoire qui semble autofictionnelle, c'est une autobiographique. Et enfin, bon. Autofictionnel dans le roman, et il y a un cahier un journal qui a été tenu, qu'elle a publié peu après, et c'est très intéressant de voir à quel point justement la vérité du désir et du fantasme et de la nécessité du fantasme est dite là.
Alors par ailleurs, je ne sais pas si vous savez, Florence Olivier, mais vous pouvez résilier vos abonnements à Vogue et à Elle, car maintenant, dans la NRF, il y a également une rubrique mode vous avez impulsée, Michel.
Oui, alors c'est cette rubrique qui s'appelle « La dernière mode », par allusion à Mallarmé, nous restons quand même dans la bibliothèque.
Non, pas trop loin.
Par Simon Liberati et Eva Ionesco, qui se veut une chronique de mode au sens propre, c'est-à-dire qui évoque les derniers défilés, les dernières créations des couturiers, mais aussi bien sûr au sens figuré, puisque c'est une occasion de broder, une occasion de rêver ou de fantasmer sur des souvenirs d'enfance ou que sais-je. Et donc on aura ce rendez-vous dans chaque numéro de la NRF.
Eh ben ça brode à la NRF. Merci. Merci Michel Crépu, on vous retrouve bientôt.
Merci à vous.
À ce micro, et d'ici là, dans les colonnes, bien entendu, de votre revue. Vous écoutez toujours la compagnie des auteurs et nous parlons toute la semaine de Roberto Bolaño avec aujourd'hui Florence Olivier. Et pour entendre un peu l'écriture de Bolaño, voici un extrait du recueil de nouvelles « Le gaucho insupportable » lu par Guillaume Gallienne.
En entrant dans le village, quelques jours plus tard, il vit une pulperia ouverte. Il entendit des voix, quelqu'un qui grattait une guitare, qui l'accordait sans jamais se décider à jouer un morceau précis, comme il l'avait lu dans Borges. Un moment, il pensa à son destin, son foutu destin américain. Une soudaine inspiration le fit entrer à cheval dans la pulperia. À l'intérieur se trouvait un gaucho âgé qui grattait la guitare, le tenancier et trois types plus jeunes assis à une table qui sursautaient rien qu'en voyant le cheval entrer. Pereda pensa avec une intime satisfaction que la scène paraissait extraite d'un récit de Di Benedetto. Il fit prendre malgré tout à son visage une expression dure et s'approcha du comptoir que recouvrait une plaque de zinc. Il commanda un verre d'eau-de-vie qu'il but d'une main, tandis que de l'autre il tenait caché la cravache, puisqu'il n'avait pas acheté un grand coutelas comme la tradition gaucho l'exigeait. En partant, après avoir prié le pulpero de mettre sa consommation sur son ardoise, alors qu'il passait tout près des jeunes gauchos pour réaffirmer son autorité, il leur demanda de s'écarter, qu'il allait cracher. Le crachat, virulent, sortit presque instantanément projeté d'entre ses lèvres, et les gauchos, effrayés et ne comprenant rien, eurent à peine le temps de faire un bond sur le côté. « Que la pluie vous soit douce, » dit-il, avant de se perdre une fois de plus dans l'obscurité de Capitaine Jordan. Parfois, Pereda, alors qu'il parcourait à cheval ou à pied les frontières floues de son domaine, pensait que rien ne redeviendrait comme avant si le bétail ne revenait pas. « Vache !» criait-il. « Où êtes-vous ? Le soir, à la lueur d'un feu de bois, Pereda tuait le temps en compagnie des gauchos de sa ferme. Il leur racontait des aventures qui n'étaient arrivées que dans son imagination. Il leur parlait de l'Argentine, de Buenos Aires et de la Pampa. Et il leur demandait lequel des trois éléments ils voulaient garder. « L'Argentine est un roman, leur disait-il. Donc elle est fausse, ou au moins menteuse. Buenos Aires est une ville de voleurs et de gouapes, une ville pareille à l'enfer où la seule chose qui valait le coup était les femmes, et parfois, mais très rarement, les écrivains.
Ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón.
Ce sont des textes que vous aimez, ceux du gaucho insupportable, Florence Olivier?
Oui. J'aime beaucoup ce premier texte. Mais j'aime aussi beaucoup les deux derniers qui sont des discours, en fait des conférences de Roberto Bolaño. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir mêlé des fictions à des nouvelles, en fait.
Oui, toujours dans cette fragmentation dont vous parliez.
Ou cette hybridation, ou ce côtoiement des genres littéraires, oui.
Alors on pourrait parler quand même un petit peu de 2666. Je sais qu'on va en parler beaucoup demain, mais ce serait peut-être une bonne chose avec vous déjà de quadriller un petit peu le territoire. On peut rappeler d'abord que le titre 2666, titre étrange comme ça a priori, il y a bien un roman qui s'appelle 7, cela dit, en librairie en ce moment, mais 2666, d'où cela vient-il ?
Ça semble très visible ou très lisible. Il y a 666, la bête, l'adversaire de l'agneau dans l'Apocalypse. Et il y a 2000, le deuxième millénaire. Il y a l'avenir, et il y a l'avenir lointain, et il y a l'avenir du mal.
Donc c'est aussi une date.
C'est aussi une date. Et cette date, en tant que date, jeu autour d'une date, le possible de la date, se trouve dans le roman Amuleto, avant la publication de 2666. Dans Amuleto, lors d'une scène de traversée d'un quartier dangereux, ou de sortie de ce quartier dangereux, il y a une impression de l'ambiance nocturne de la ville de Mexico. Et les rues, je crois, de ce quartier, Guerrero, ressemblent à celles d'un cimetière de 2666, vu sous la paupière d'un fœtus ou d'un avorton.
En tous les cas, dans 2666, on est plutôt à la fin, ou à travers les années 90, d'une rive à l'autre de l'Atlantique. On peut rappeler peut-être ici les différentes parties de ce roman. Il y a d'abord la partie des critiques qui relate les aventures d'un quatuor d'universitaires et de critiques littéraires de l'Europe lettrée jusqu'à ce que trois d'entre eux partent à Santa Teresa en 2001 en quête d'un mystérieux écrivain, Benno von Archimboldi.
Oui, il y a la partie des critiques, donc qui se présente de manière, semblerait-il, assez légère. Hein, c'est une satire, en réalité, pas seulement, sur ce que sont, pardon, les passions que peuvent atteindre, a priori, ces lettrés, ces critiques littéraires, ces universitaires européens.
Donc, qu'ils soient européens est important.
Soit européen est fondamental. Hein. Il s'agit, il va s'agir dans tout le roman de la transmission, hein, de la mémoire des terreurs, des horreurs du XXe siècle et de la transmission de la littérature du XXe siècle d'une rive à l'autre de l'Atlantique. Donc c'est à la fois, ce sont les aventures du mal dans l'histoire du XXe siècle et du début du XXIe, mais le tout début, le seuil du XXIe siècle, et ce sont les aventures de la littérature répondant à ces horreurs de l'histoire. Voilà, donc depuis la littérature russe, depuis la littérature écrite en URSS, jusqu'à la littérature de la fin du XXe siècle, écrite en allemand.
Donc la première partie, ce sont des critiques européens, mais en revanche, la seconde partie, c'est un critique chilien.
Alors, la seconde partie, j'adore cette partie. C'est une partie extraordinairement ludique et philosophique à la fois. C'est donc un professeur de philosophie chilien qui se trouve enseigné à l'université de cette ville donc frontalière qui évoque Ciudad Juárez, mais qui est la ville imaginaire de Santa Teresa, entre le Sonora et l'Arizona, alors que Ciudad Juárez se trouve entre le Chihuahua et le Texas. Donc elle a été déplacée géographiquement et elle se trouvait déjà dans les détectives sauvages. Santa Teresa, elle existe dans les détectives sauvages. Autrement, le nom Santa Teresa et la situation géographique existent. Mais Amalfitano est un professeur de philosophie donc égaré, on va dire, dans un deuxième exil, un rebond de son exil, une deuxième abolition de son destin, comme il le dit lui-même aux critiques européens qui le rencontrent, donc dans la première partie, et qui vit de nouveau une sorte d'horreur de la réalité, après celle qui est tue d'ailleurs dans le roman de la répression au moment du coup d'état de Pinochet au Chili, après 1973, vit de nouveau un autre type d'horreur latino-américain sur cette atroce grille de mots croisés de l'Amérique latine, comme le dit Roberto Bolaño, dans, entre parenthèses, qui est là à la frontière mexicano-américaine.
Donc le mal, c'est ce qui pour vous, même s'il y a beaucoup de vitalité quand même aussi chez Bolaño, il y a beaucoup de vie, mais c'est ce qui pour vous compte le plus.
Non, je ne dirais pas ça.
Enfin, ça compte beaucoup.
Dans 2666.
Dans 2666,
oui,
voilà.
Ça compte beaucoup.
Et précisément, le professeur chilien Amalfitano, eh bien, il a tendance à voir le diable. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Par exemple, le jour où Pelletier, l'universitaire français, l'invite à piquer une tête dans sa piscine, il raconte ce qui est arrivé, il dit « Mais quand il est entré dans la piscine, Amalfitano n'avait plus fait un geste, comme si tout à coup, il avait vu le diable et il avait coulé. »
Oui, mais ça, c'est ce qu'interprète l'autre critique. « Comme s'il avait vu le diable. » Or, qu'a-t-il vu, c'est peut-être un autre type de diable, peut-être Yeltsin, qui lui apparaît en rêve, en cauchemar aussi, qui est une sorte de professeur de philosophie. Le dernier professeur de philosophie communiste.
Rapidement, Florence Olivier, les trois dernières parties, je ne sais pas si on a le temps de passer les trois en revue, lesquelles vous semblent la plus importante ?
Elles sont toutes importantes, elles sont toutes en gravitation. Elles sont toutes animées d'un principe de gravitation. Mais la partie, évidemment, des crimes, qui est la partie qui se déroule à Santa Teresa, où sont énumérées 110 découverte de cadavres de femmes assassinées par toutes sortes de criminels, en réalité, en réseau et en complicité, et surtout au sein d'une impunité extraordinairement scandaleuse, cela, c'est effectivement une partie extrêmement impressionnante par son écriture aussi, par la neutralité apparente de son écriture, qui ne l'est pas du tout en réalité, et par le jeu de répétition et de variation qui se trouve dans les descriptions des découvertes de cadavres et des enquêtes qui tournent court.
En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención, el choque no se puede evitar.
La littérature, c'est la vie, Florence Olivier. En tout cas, c'est le titre de la dernière grande partie de votre essai où vous citez l'un des écrivains fictifs qui discourt dans Les Détectives Sauvages, le père Ordonez, qui dit « Tout ce qui commence en comédie s'achève indéfectiblement en comédie ». Est-ce que cette maxime peut s'appliquer à Bolaño ?
Il s'amuse beaucoup dans Les Détectives Sauvages, dans tout au long d'un chapitre, à démentir finalement le fait que tout suite s'achève en comédie. Tout s'achève en farce tragique, tout s'achève en tragicomédie.
C'est ça, c'est de la tragicomédie.
C'est de la tragicomédie, bien sûr. Et c'est une tragicomédie, je le répète, à la fois extrêmement satirique et très poétique. C'est-à-dire qu'il y a un double jeu, ou si ce n'est beaucoup plus varié que double, dans l'écriture de Bolaño, où les idéaux de jeunesse, peut-être, ne sont pas morts. Ils sont là encore. Ils sont présents. L'utopie, il faut la critiquer. Il faut peut-être en condamner certains effets, mais pas toute l'utopie. Pas l'élan de l'utopie. Pas l'élan de l'utopie, disons du moins des avant-gardes littéraires, par exemple. Pas l'élan du désir de justice et d'égalité. Cela, non.
Mais en revanche,
on reste héroïque.
En revanche, on peut se moquer gentiment.
Et on se moque.
Et on se moque même beaucoup.
Et il le faut.
Voilà, de qui alors ?
De tout écrivain lâche, complice des pouvoirs en place, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, de tous les écrivains qui feignent d'écrire, qui ne sont pas pleinement écrivains, et bien qui exercent une habileté. Or, l'écriture, pour Bolaño, c'est bien autre chose que d'être habile. Tout habile est un demi-habile.
Et c'est peut-être pour ça que, pour Bolaño, le poète ne peut pas mentir, parce que le poète sait très bien que sa poésie, elle ne se vendra pas, quoi qu'il arrive. Et donc, s'il choisit d'être poète, il ne peut pas être dans ce que vous décrivez.
Oh, le poète peut s'amuser aussi à faire des fictions, donc à un mentir vrai. Mais effectivement, la poésie échappe aux logiques de marché, hein, à cette logique à laquelle est soumis le roman, les récits, les adaptations, à partir des récits et des romans. Tout contrat actuel, il le sait, Bolaño, est susceptible d'être adapté à toutes sortes d'autres expressions.
Donc, il rit des libraires, des éditeurs, des critiques et des universitaires.
Oui.
Vous êtes universitaire.
Oui.
Comment lisez-vous Bolaño, vous qui le critiquez en plus, vous qui écrivez quand même sur Bolaño, alors qu'il ne fait quasiment que se moquer de vous?
Je le lis en sœur. C'est un frère, Bolaño, pour moi. Donc je le lis aussi en critique. Mais lorsqu'on lit, on est toujours plusieurs. On se déplace, comme Bolaño se déplace lui-même, à travers ses narrateurs, comme il peut se déplacer dans la satire et occuper tous les champs, hein, de l'air de combat, parce que c'est une ère de combat, l'air de combat satirique, et qui peut s'amuser. Eh bien, j'espère. Pouvoir me déplacer d'une position de lectrice à une autre position de lectrice.
Mais quand vous vous retrouvez entre critiques, comme les quatre critiques de la partie des critiques, et que vous parlez de Bolaño pendant des congrès qui sont consacrés à Bolaño, quand même, il y a un effet miroir qui doit être assez amusant.
Oui, c'est très drôle. Et en effet, j'ai rencontré des infraréalistes qui m'ont dit immédiatement « La critica francesa », la critique française, pour jouer avec les critiques, évidemment, le quatuor des critiques européens de 1666. Voilà.
Je voudrais terminer cette émission sur un mot, et ce mot, c'est le mot pamphlet. Est-ce que c'est un pamphlet aussi que la littérature, enfin certains textes en tous les cas, de Roberto Bolaño ?
Bon, il s'est amusé à dire que le genre à venir, le genre qui avait de l'avenir, était le néo-pamphlet. Mais pourquoi pas ? Bon, donc
qu'est-ce
le pamphlet,
que ça veut dire ?
C'était de la provocation. Le néo-pamphlet, ben, c'était la nouveauté du pamphlet. Non pas le pamphlet à la manière de Céline, mais un nouveau pamphlet pour le 21e siècle. Il a dit ça à Ignacio Echevarria, qui lui recommandait d'être un peu plus modéré dans ses déclarations publiques. Mais c'était dans des conférences. L'écriture de Bolaño n'est pas pamphlétaire. Il y a des textes de conférences qui sont effectivement corrosifs, hein, dans leur critique des milieux littéraires et des lâchetés surtout.
Voilà, et c'est ça qu'on aime aussi, ou peut-être même en particulier chez Bolaño. Merci Florence Olivier. Tout de suite, comme chaque jour à 7h, on retrouve la poésie Jacques Bonafé.
Bonjour, Ariel Le recueil des poèmes de Sylvia Plath, traduit par Valérie Rouzeau, contient les poèmes violents que nous lisions hier, mais nous y avons cherché aussi les mots sensibles adressés à l'enfant, à l'homme et à la solitude aimée. Amour. L'amour a réglé le rythme de ton cœur comme une grosse montre d'or. La sage-femme a giflé les plantes de tes pieds et le pur cri de toi prit sa place aussitôt parmi les éléments. Ça, c'est chant du matin. Tu es, dit le poème adressé à sa fille, tu es le plus heureux des clowns sur les mains, les pieds dans les étoiles, le crâne rond comme la lune, avec tes ouïes de poisson dans l'eau, averti du bon sens, du dodo, l'enfant d'eau, enroulé sur toi-même, telle une pelote de laine, occupé à tirer à toi la nuit comme le hibou, muet comme un topinambour du 4 juillet au 1er avril, date de la naissance de Frida, ô mon glorieux, mon petit pain, flou comme la brume, guetté comme un colis, et plus lointain que l'Australie, notre atlas au dos courbé, notre crevette voyageuse, un bourgeon douillé à son aise comme un hareng dans son bocal, une nasse frétillante d'anguille, nerveux comme une fève sauteuse, une évidence telle une addition juste, une ardoise nette avec ton visage dessus. Quelques phrases tirées d'un poème. Mon chéri, toute la nuit j'ai tremblé, j'ai tremblé. Les draps pèsent comme une étreinte obscène. Les corps adultères sont roulés dans une poussière noire comme la cendre d'Hiroshima et dévorés. Trois jours, trois nuits, eau et citron, eau et poulet, l'eau me donne la nausée. Lettre en novembre. Mon amour, le monde tourne, le monde se colore, le réverbère déchire sa lumière à travers l'Écosse du Cities ébouriffé à 9h du matin. C'est l'Arctique, ce petit cercle noir, ces herbes fauves et soyeuses, des cheveux de bébé. L'air devient vert, un vert très doux et délicieux. Sa tendresse me réconforte comme un bon édredon. Je suis ivre, bien au chaud. Je suis peut-être énorme, si bêtement heureuse, dans mes bottes en caoutchouc, à patauger dans ce rouge si beau, à l'écraser. Je suis ici, chez moi. Deux fois par jour, j'arpente ma terre. Je flaire le hou barbare, son fer viride et pur, et le mur des vieux cadavres. Je les aime comme l'histoire, puis les pommes d'or. Imagine mes 70 arbres dans une épaisse et funèbre soupe grise, occupés à tenir leurs balles d'or éclatant, leurs millions de feuilles métalliques haletantes. Ô amour, ô célibat, je suis seul avec moi, trempé jusqu'à la taille, l'or irremplaçable saigne et s'assombrit, gorge des Thermopyles.
Ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé qui lit cette semaine des textes de Sylvia Plath et en particulier de son Ariel et autres poèmes. Un grand merci à Florence Olivier, mon invité d'aujourd'hui, dont je rappelle le livre « Sous le roman, la poésie, le défi » de Roberto Bolaño. C'est aux éditions Hermann. Et puis pour écouter Bolaño dans le texte, sachez que la fiction de France Culture propose deux soirées consacrées à l'écrivain chilien. La première a eu lieu dimanche dernier et peut être réécoutée en ligne. C'était des adaptations d'Amuleto et de Carnet de Bal. Et la seconde a lieu dimanche prochain à 21h avec des extraits des Putains meurtrières, de Dernier crépuscule sur la Terre, ainsi que du Retour. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la console, il y avait Anthony Thomasson. Merci à Corinne Amar, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, dernier temps de cette semaine consacrée à Roberto Bolaño, nous discuterons de son influence aujourd'hui en compagnie de deux écrivains, Alban Lefranc et Edwige Jeanmar, qui sont en quelque sorte des héritiers.